jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est écrivaine, même si je dois tout de suite préciser que ce mot, je crois qu'elle ne l'aime pas trop. C'est pourtant avec ses livres, depuis 1990, qu'on la connaît, vous allez pouvoir le dire. Mais si elle est ici ce midi, ce n'est pas pour cette œuvre, mais pour sa première réalisation. Son documentaire « Une famille » sort mercredi dans les salles et ne laissera personne indifférent, car s'y montre ce qui jusque-là était écrit dans ses livres, l'inceste qu'elle a subi de son père dès ses 13 ans et qui, comme elle le dit dans ce documentaire, arrive à toute une famille. Armée d'une caméra, c'est justement chacun de ses membres qu'elle va voir des années après la mort de son père. Mais que se passe-t-il alors face à cette caméra ?
Christine Angot, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Alors, je vous donne tout de suite la parole là-dessus. Oui. Vous aimez bien ce mot d'écrivaine ?
En fait, la question est la suivante. Quand on utilise un mot, est-ce qu'on voit ce qu'il désigne ou est-ce qu'on voit le mot ?
Maintenant, le mot ou la chose ?
Oui. Enfin, est-ce qu'on voit le... Oui, est-ce qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur du, est-ce qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur du mot, ce qu'il représente, ou est-ce qu'on voit, ah tiens, ce mot est comme ça, voilà. Pendant très longtemps, quand on disait écrivaine, on disait ah tiens, elle dit écrivaine, mais on ne voyait pas une machine à écrire ou un stylo ou quelqu'un devant en train d'écrire. Bon. En revanche, quand on disait écrivain, que ça désigne un homme ou une femme, qu'on voyait quelqu'un en train d'écrire. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Aujourd'hui, vous dites écrivaine et vous vous dites pas, tiens, elle dit écrivaine, parce que c'est parce que le mot est passé.
Ça ne masque plus la réalité.
Exact. Disons que ce n'est plus une posture de langage. Pendant très longtemps, ça a été une posture de langage désignée à faire bouger le langage, et c'est ainsi, c'était nécessaire. Mais moi, qui suis écrivaine, j'utilise les mots non pas pour faire en sorte que le langage change, mais pour que ils disent ce qui est. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, maintenant, écrivaine, c'est évidemment que c'est ça. Maintenant, quelqu'un qui dirait « vous êtes écrivain » à une femme, se dirait « ah oui, elle dit écrivain pour bien montrer que... »
Elle refuse écrivaine.
Voilà.
Donc, on en viendrait à l'inverse, c'est-à-dire à se questionner sur l'usage de ce mot.
C'est ça. C'est-à-dire que la question, c'est le mot est là pour représenter les choses, pas pour faire la psychologie du locuteur.
Voilà. Est-ce que si je vous présente comme réalisatrice, et là indépendamment du féminin ou du masculin, est-ce que ça vous convient ?
Ben, je viens de faire un film.
Donc, réalisatrice à ce titre-là.
Voilà, je viens de faire un film, je l'ai réalisé, et bien sûr, c'est moi qui l'ai fait, oui. Pas fait seule, mais je l'ai fait.
En 2021, lors de la publication de votre dernier livre, Le Voyage dans l'Est, pour en faire la promotion, vous allez à Strasbourg, la ville où a vécu votre père et où a commencé l'inceste. Pourquoi avez-vous décidé d'en faire un film à ce moment-là, c'est-à-dire d'y aller armé d'une caméra et avec une équipe ?
C'était une sorte de réflexe, une idée qui m'a traversé l'esprit. Comme ça, j'avais déjà pensé un peu, mais pas du tout dans ces circonstances de Strasbourg, ou pas du tout. J'avais pensé longtemps avant, je m'étais dit, il faudrait peut-être que je pense un jour à ça, le cinéma. Bon. Mais sans qu'il y ait d'objet derrière, sans qu'il y ait de réalisation particulière, sans avoir d'objet en tête. Voilà. Et là, c'est vrai que dans cette circonstance, immédiatement, je me dis, je crains d'aller présenter le voyage dans l'Est seul, pas complètement seul, parce qu'évidemment, il y a des gens, on peut, pas systématiquement, mais en général, quelqu'un vous accompagne, quelqu'un de la maison d'édition vous accompagne, donc c'est pas seulement la question qui est quelqu'un qui vous accompagne, c'est que quelque chose pourrait survenir, dans cette ville, particulièrement au moment de la sortie du Voyage dans l'Est, et que si quelque chose survenait, que je ne prévois pas, mais que j'imagine possible, et même dont je rêve, hein, c'est-à-dire mon demi-frère qui viendrait dans une librairie, ou ma demi-sœur qui viendrait à ma rencontre dans une lecture, bon, par exemple. Et je dis bien que c'est un rêve, mais c'est un rêve très ancien. C'est un rêve qui commence le jour où je rencontre mon père, et où je lui demande tout de suite, après lui avoir demandé combien de langues il parle, tout de suite après, je lui dis, est-ce que je pourrais rencontrer tes enfants ? C'est la première chose que je lui dis. Et il me dit, oh, tu sais, ils sont encore petits. En réalité, je veux dire, j'ai été... on leur a parlé de moi, enfin. Mon père et sa femme leur ont parlé de moi quand, une fois qu'ils ont eu chacun leur bac. Parce que il craignait qu'apprendre mon existence perturbe leur scolarité. Ça m'a été dit très clairement. Et vraiment, pour mon père et sa femme, pour ces parents-là, de ces enfants-là...
ça les aurait perturbés, eux.
Voilà. Ils risquaient de perturber leur scolarité. Mon père, par rapport à sa fille, moi... n'a pas eu ce genre de préoccupation. Mais en tout cas, voilà. Donc, ce qui fait que je les ai rencontrés relativement tard, puisque eux avaient 20 et 22 ans, et moi, 27, je pense. 27.
C'est pour ça que j'ai dit armée d'une caméra, c'est-à-dire à la fois en guise d'accompagnement, mais aussi de soutien. Et aussi de protection face à cette surprise qui aurait pu arriver, mais aussi, voilà, une occasion, en fait, à la fois vous dites un rêve, mais ça pouvait être aussi l'occasion d'une explication, d'une violence.
Moi, par rapport à mon demi-frère et ma demi-sœur, j'ai aucune raison d'être violente. Non, c'est plus, non, pas du tout, c'est...
voilà. Ou c'est, eux, je voulais dire.
Pardon ?
Eux, je voulais dire, ils auraient pu aussi débarquer, vous demander de rendre des comptes.
Ah ben vous voyez, je ne l'ai même pas imaginé. Je ne l'ai même pas imaginé. Voilà, tout d'un coup, vous m'ouvrez.
Moi, je pensais que vous aviez besoin d'une caméra, justement, presque comme un bouclier.
Ah non, pas du tout. Non, non, c'est plus une protection intérieure. Donc, pour ça, je ne considère pas comme une arme. C'est plus une protection intérieur parce que parce que ça fait un deuxième lieu, tout simplement. C'est quelque chose qui, il y a le lieu de la vie que vous êtes en train de vivre, et puis il y a un deuxième lieu à côté de vous qui est ce que la caméra enregistre, et qui est un lieu pour plus tard. C'est pour être vu plus tard et avec un sens. Les choses sur le moment, quand on est en train de les vivre, on n'en connaît pas le sens. On n'a pas le temps de s'interroger sur le sens. On n'a que le temps de les vivre. Et c'est très bien comme ça. On est entièrement mobilisé à vivre ce qu'on a à vivre. En revanche, si c'est enregistré, même si c'est très fidèle, le simple fait de représenter la chose, suivant comment c'est filmé, comment c'est donne le sens, en donne les différents sens et les sons, l'image, les phrases, tout, parce que vous le regardez et vous n'êtes pas en train de le vivre, vous le regardez, donc ça change tout.
J'en ai marre de parler de ça. J'en ai marre que mon travail soit envahi par ça. Parce que ça, c'est moi à la très mauvaise époque.
Là, j'ai 13 ans, donc là, c'est le moment où ça commence.
Et je sais la pensée qui va avec.
depuis l'inceste, depuis 1999, c'est-à-dire plus de 20 ans, Christine Angot, parmi tous les écrivains contemporains, est celle qui a subi le plus grand mépris de la critique littéraire.
Absolument,
mais le plus grand mépris.
J'ai quand même entendu dans le mystère me dire, quand mon père est mort, il m'a quand même dit, de toute façon, il a toujours dit que tu fabulais.
Il y a le nom.
Il y a le nom ?
Tu dis que c'est moi ? Tu dis que c'est moi ou tu sors ?
Oui, bonjour, c'est Christine.
C'était la bande-annonce de votre film Christine Angot, Une famille qui sort mercredi sur les écrans. Vous venez de dire que la caméra était un deuxième lieu. Celui où on filmait pour pouvoir justement revoir ces images plus tard et les comprendre.
Et même pour les voir. Parce que quand on est dedans, on ne les voit pas. On les vit.
Mais on ne peut plus agir dessus. Il y a une forme de... J'allais vous poser la question de... Pourquoi vous avez décidé de passer de l'écriture des mots à l'image ? Qu'est-ce que ça apporte dans la mesure où... Alors, je pensais que c'était justement ce moment que la caméra pouvait provoquer des moments de vie, des moments de vérité. Mais si le sens nous apparaît après, ce que je comprends parfaitement, ce que je partage d'ailleurs avec vous, est-ce qu'on n'est pas frustré justement de se dire que l'échange n'a pas eu lieu. Vous allez à la rencontre de votre ex-belle-mère, vous allez vous parler avec votre mère, vous parlez avec votre ex-mari, vous parlez avec votre fille. Est-ce que ces échanges-là, face à la caméra, ils sont manqués ?
Ah ben non. Non, ils sont possibles. C'est au contraire. Ils sont rendus possibles. Parce que le fait qu'il y ait... une opératrice ou deux opératrices avec une caméra, que ces gens-là se soient dérangés, vous aient accompagné, soient venus là où vous leur avez proposé. Le fait que vous leur ayez expliqué certaines choses, qu'il y ait donc un propos, des circonstances, une mise en scène d'une certaine façon, même si il y a une grande part de la surprise, on est là pour voir quelque chose. Donc,
mais si les sens nous apparaissent plus tard,
oui,
des choses qui se sont jouées pendant les échanges nous apparaissent plus tard, il y a une forme presque de dissociation et moi j'irais plus loin qu'une forme de frustration.
Non, pas du tout. Comment il y aurait de la frustration vu que vous savez que les choses vont être gardées ? Au contraire. Sinon vous pourriez être au contraire dans une espèce de panique. Oh, mon Dieu, mais comment je vais faire pour me souvenir de tout ça ?
Oui.
Voilà. Là, vous êtes accompagné. Il y a
des témoins.
Il y a quelqu'un. Alors, il y a des témoins et puis il y a surtout c'est pas des témoins ordinaires, ce sont des témoins qui captent ce qui se passe, qui le captent dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'ils voient la même chose que vous et en même temps ils le retiennent pour justement qu'on puisse savoir que la porte, la fameuse porte fermée. De la vie privée et des incestes en particulier, qui ne relèvent pas de la vie privée pourtant, mais bien de la transgression du viol et de l'exposition, de la mise en danger de quelqu'un, que cette porte-là puisse, quand elle est ouverte, pour une fois qu'elle s'ouvre,
pour qu'on sache
dire ce qu'elle a à dire, pour qu'on voit.
Et qu'on voit.
On voit. On voit, on sait. Hein.
Et qu'on
alors
voit
que parfois, on croit savoir et en fait, on ne voit rien du tout.
Mais là, ce qu'on voit, ce n'est pas l'inceste en tant que tel, c'est l'effet que ça a sur une famille. Vous le dites
oui,
très
mais
bien.
C'est ça, l'inceste aussi. L'inceste, ce n'est pas juste la partie de la. Disons, ce n'est pas juste la dimension sexuelle. C'est aussi la dimension du langage, dire « je t'aime » à son enfant d'une manière qui n'est pas, enfin, qui n'a rien à voir avec dire je t'aime à
qui n'est pas d'amour filial
à son enfant. Oui, c'est pas l'amour filial. C'est ça qui est imposé quand même. Hein. Donc c'est retirer la vie. C'est mettre une espèce de comment dire de c'est une mise en danger réelle de la vie que cet enfant pourrait avoir.
Ce qu'on voit aussi dans
aurait pu avoir.
Ce qu'on voit aussi dans les échanges que vous avez avec
et pardon oui. Mais quand même j'ai pas répondu à votre question. Donc l'inceste, donc c'est pas seulement ça, l'inceste c'est aussi ce qui se passe dans toutes les personnes qui sont concernées en direct parce qu'elles sont autour de l'agresseur ou de l'enfant qui en est victime, mais ça s'élargit naturellement à notre société et ce qu'elle en dit. C'est tout ça, l'inceste, en train d'avoir lieu, en train d'être laissé faire. Et voilà, c'est pas juste un instant derrière une porte de viol.
Et qui se finit après. Au contraire. C'est ce qu'on
exactement.
C'est ce qu'on voit dans
pas
l'échange.
Quelque chose qui se finit après, exactement. Ça dure toute la vie, oui, bien sûr. Toute la vie, ça dure toute la vie dans le temps et dans l'espace, ça s'étend à
ça contamine
toute la société.
Tout.
Ça contamine la société. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien, c'est aussi une chose qui s'attaque. C'est ce que, quelque chose que j'ai compris, que j'ai écrit quand j'étais en train de faire le voyage dans l'Est, c'est quelque chose qui s'attaque au premier mot du tout petit enfant, du bébé qui apprend à parler. Le sens du mot papa et maman. Ce sont les premiers mots que vous apprenez. Et ce sont les premiers mots que un parent apprend à son enfant. Ça pervertit ces mots-là. Ça pervertit le langage dans les premiers mots que l'enfant apprend. C'est très grave. Ça pervertit le langage lui-même. Faut bien se rendre compte quand même.
Dans l'échange que vous avez avec votre belle-mère, qui ouvre le film pratiquement, vous entrez chez elle, elle voit les caméras, elle ne veut pas vous laisser rentrer, vous mettez le pied dans la porte.
Elle m'ouvre, hein.
Elle vous ouvre au début, quand elle voit l'équipe de tournage, elle veut refermer la porte.
L'équipe de tournage qui comporte deux personnes. Hein. Je le dis parce que quand on dit équipe, on
oui,
voit,
on a l'impression qu'il y a 15 personnes derrière.
On voit un dessin de voilà. Donc c'est pas du tout ça. C'est deux personnes qui sont avec moi, en effet. Parce que pour une fois que je suis accompagnée dans cette famille, c'est précieux.
Elle vous dit... j'ai de la peine pour ce qui t'est arrivé.
Non, ben non, justement. Justement, non. Elle dit, j'ai de la peine pour toi.
J'ai de la peine pour toi. Et
c'est pas pareil. C'est,
ah ben vous non, lui dites, pas du tout.
Vous lui
y a
dites,
pas
je ne veux
tout,
pas de la peine.
Il n'y a pas du tout la notion de ça t'est arrivé. Et non, justement pas.
Vous lui répondez à un moment donné parce qu'elle dit, voilà, pour toi. Et c'est à ce moment-là que vous lui dites, mais c'est pas pour moi, c'est pour nous. Ça nous est arrivé à tous. C'est à ce moment-là que vous dites ça, mais... Elle inaugure d'une certaine manière quelque chose qu'on va entendre dans la bouche de la plupart des personnes avec qui vous discutez, c'est « je ne comprends pas oui. ». C'est impensable. Vous filmez beaucoup ça aussi, c'est-à-dire que la déflagration du langage, mais aussi l'incompréhension.
Oui, mais il y a des différences. Je veux dire, il y a des choses qu'on retrouve d'une personne à l'autre, mais il y a aussi énormément de différences. Pas une personne n'est placée dans la même situation qu'une autre. Et là, quand elle dit ce que tu as vécu, elle dit pas ce qui t'est arrivé. Quelque chose qui arrive, c'est bien particulier. C'est vraiment très précis. Là, c'est ce que tu as vécu. Mais pour elle, on le comprend plus tard dans la conversation, ce que j'ai vécu, c'est ne pas avoir grandi avec mon père. C'est ne pas l'avoir connu quand j'étais petite. Donc il y a toutes sortes d'interprétations. Tout ça est très... Donc c'est pas exactement le... Je vous dis, chacun est placé dans une situation différente et dans le film, on voit toutes ces attitudes pour certains ou toutes ces protections ou toutes ces... Je sais pas comment dire, des situations d'errance presque.
Mais presque de sidération.
Moi, j'évite ces grands mots parce que je ne sais plus ce que ça veut dire. Franchement, ça veut dire quoi, sidération? Moi, je ne sais pas.
Quand on n'a pas de mots? Quand on ne comprend vraiment rien?
Ça n'existe pas. Enfin, on comprend très bien. Enfin, voilà, c'est non. Non, c'est plus des... chacun est renvoyé à sa propre angoisse par rapport à ça. Ça, c'est le cas de ma mère, c'est le cas de Claude, ou à un désir de confort qu'il ne veut pas perdre. Bon, ça, c'est le cas de la femme de mon père et de toute cette famille qui préfère ignorer les choses. Je ne vois pas ce qu'il y a là-dedans de la sidération. Il y a le désir de conserver. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier, hein, parce que si on dit sidération, on reste sur le côté psy. Alors, ok, mais il y a aussi le côté social, quand même, dans l'inceste, qu'il ne faut quand même pas oublier.
Ce que l'on voit à la fois, vous l'avez dit, dans la réaction de votre belle-mère et dans celle de votre famille plus proche, qui est différente. Là, l'incompréhension, c'est presque quelque chose. Alors, quel mot trouver pour cette incompréhension-là de personnes qui ne veulent pas préserver leur confort,
non,
mais qui sont dans quelque chose de... dans une incompréhension qui n'est pas intellectuelle, dans une incompréhension qui relève de quoi?
Alors déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que, parlons de ma mère, une mère dont l'enfant est touché par l'inceste est salie, au même titre que l'enfant, voire plus. Elle est l'imbécile, elle est celle qui n'a pas vu, elle est elle est dégradée en même temps que l'enfant. Et d'ailleurs, elle l'est, à mon avis, l'objectif de celui de l'agresseur. Elle est son point de mire. C'est aussi, bien sûr, pour doucher ses espoirs que son enfant soit reconnu par son père, ce qui était le cas de ma mère. Elle voulait qu'il n'y ait plus écrit de père inconnu sur mon livret de famille. Elle voulait que je sois comme les autres enfants dans les autres familles. Ce qui, à l'époque, comme vous le savez, il y avait un seul type de famille. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Mais d'ailleurs, chacune de ces familles a quand même des contextes juridiques très précis. À l'époque, il y avait un type de famille, et ce qui ne correspondait pas à ce type de famille, c'était de père inconnu, et c'était, c'était un discrédit social quand même. Donc c'est ça qu'elle cherche à effacer, et à obtenir une forme de respectabilité. Et il finit par accepter de me reconnaître, mais cette respectabilité qu'il accorde à ma mère et à moi, à ce moment-là, et au papier d'identité corrigé, il le retire d'une autre manière, en inscrivant la honte autrement. Donc c'est quand même ça. C'est mettre des gens dans la honte. Et la mère à qui, dont l'enfant est touché par l'inceste, évidemment, est quelqu'un qui tombe dans la honte. Ça, c'est sûr. La honte qu'elle éprouve, la honte qu'on lui adresse. Ça, c'est certain. Donc, je ne pense pas que la honte permet d'avoir les idées très claires sur soi-même, sur sa propre expression, sur ce qui se passe autour de soi. Parce que ça bouche la vue, la honte, hein, à tout le monde. Hein. Pas juste dans ces circonstances-là. C'est quelque chose qui vous empêche d'être... qui vous enlève vos moyens, qui vous barre. Donc, elle est dans cette situation.
Et votre fille, qu'on voit à la fin du documentaire, elle dit aussi « Je ne comprends pas, en fait, que ça ait été possible, que ce se soit produit. » Elle le dit autrement parce que...
Ah oui, elle le dit autrement.
Elle le dit beaucoup mieux.
Elle le dit autrement. Non, mais elle le dit avec colère.
Oui.
Elle le dit avec colère. Et elle dit « Je suis désolée, maman, qu'il te soit arrivé ça. »
C'est la seule.
C'est la seule.
Cette incompréhension de votre fille, vous arrivez, après avoir discuté avec elle, après l'avoir filmée, après avoir regardé ce moment-là, à comprendre quel type d'incompréhension c'est.
Alors, je ne sais pas si c'est de l'incompréhension. Pour moi, ce n'est pas de l'incompréhension pour Léonore à ce moment-là. C'est de la rage. C'est de la colère. Alors, c'est vrai que la colère et la rage va avec une forme d'incompréhension.
Le refus que ce soit normal et
voilà,
compris.
Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Il n'y a rien à comprendre. Il ne faut pas comprendre. Il faut refuser de comprendre. Donc, quand elle dit cette... ça, c'est mais elle dit... En fait, il faut arrêter avec pourquoi, qui serait comprendre, et il faut dire comment. C'est tout. C'est ça qui nous intéresse. C'est comment. Comment. Quels sont les voilà. Quel est le dispositif? Quelles sont les circonstances?
Les mécanismes. Vous n'avez pas ce mot.
Vraiment pas mon truc, parce que mécanismes, quand on dit les mécanismes, bon, alors ok, on peut les repérer, puis on fait quoi après? On les applique comme ça aux situations? Essayons d'être un petit peu plus particuliers. Essayons d'être un tout petit peu plus près des personnes. Et quant aux rouages, c'est les rouages du pouvoir, c'est pas les rouages de l'inceste. Hein.
Votre documentaire, vous le voyez, Christine Angot, aussi comme ayant forcément une portée donc politique, sociale.
Évidemment, bien sûr.
Pour démontrer ça, comment vous imaginez l'idée de puisque vous dites qu'il faut remplacer le pourquoi par le comment, comment on est au plus près des personnes, comment on écoute mieux. Il y a un mouvement d'écoute qui s'est mis en place depuis quelques années. On pourrait parler aussi de la Civise.
Mais ça, ce sont des écoutes professionnelles, ce sont des écoutes associatives. Et moi, je n'ai pas à me mêler de ça. Ça, ce sont des choses qui relèvent de l'organisation sociale. Et ce n'était pas du tout mon objet et ce n'est pas mon domaine. Écouter, vous savez, c'est très simple. Hein. Il suffit d'écouter. C'est très simple. Il suffit d'avoir envie de... Il suffit de regarder quelqu'un. Il suffit de... Il faut regarder quelqu'un. Et puis l'écouter. Il n'y a rien à faire de spécial. Hein. Écouter, c'est des gens qui ont des oreilles, ils peuvent écouter. N'importe lesquels. N'importe lesquels. C'est très simple d'écouter. Simplement, il faut être là. C'est la seule chose qu'il faut faire pour écouter. Il faut être là. Il ne faut pas faire semblant d'être là. Il ne faut pas appuyer sur le bouton « j'écoute ». Je me mets en mode « écoute ». Je me mets en mode « tiens, il y a une victime. Ok, bonjour, je vous écoute ». Bon, ça, c'est très bien, mais c'est professionnel, associatif, collectif. Moi, c'est pas de ça que je parle, c'est pas mon domaine. Ça, c'est le domaine des politiques. Et ils font ce qu'ils ont à faire. Je pense que... Enfin, n'importe qui peut écouter à partir du moment où il combat ce qui pourrait l'empêcher, lui, d'écouter. C'est-à-dire ses propres entraves,
ses propres
angoisses, bien sûr, son propre passé, son propre désir de conformité. Voilà, écouter quelqu'un. Et d'abord, voilà, c'est ça la vraie chose. Écouter, ça ne veut rien dire. Rien. Écouter quelqu'un. Sachant que quelqu'un n'est pas la personne d'à côté. Écouter quelqu'un. Écouter comme ça tout seul, l'écoute, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire. Rien.
Donc tous les mots, libérer la parole, je te crois, tout ce qu'on peut entendre, dans... ça pour vous c'est des discours, c'est pas de l'écoute.
Non, mais attendez, les discours, on en a besoin. C'est la politique, c'est la vie sociale, c'est l'action politique. Donc, mais bien sûr que ce sont des discours. Ça, c'est sûr, libérer la parole, bien sûr, ça relève du discours. Bien sûr, c'est comme ça que le discours se formule. Moi, je ne m'occupe pas de ça. C'est très important, mais ce n'est pas mon sujet à moi. Moi, mon sujet, c'est écouter quelqu'un. C'est tout. C'est tout. Voir quelqu'un. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où on commencera à être un tout petit peu intéressé par écouter quelqu'un, ça va beaucoup changer. C'est aussi simple que ça. C'est comme être là. Être là, écouter quelqu'un. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Rien.
Est-ce que vous avez commencé à écrire Christine Angot parce que justement vous n'étiez pas écoutée ?
Non. J'ai commencé à écrire parce que... Parce que j'ai adoré ça. Parce que... C'était libre. Parce que ça me permettait de vivre dans un monde où toutes les... Comment dire ? Oui, où tout est libre. Alors c'est difficile parce que libre, ça veut dire libre de quoi faire, libre de quoi écrire. C'est très angoissant.
C'est assez vertigineux, d'autant que tout à l'heure, vous avez dit, Christine Angot, que l'inceste touchait tout.
Et de ne pas écouter, moi je m'en fiche, hein, je me suis très habituée, hein, ce n'est pas un problème. Hein. Je n'ai pas besoin d'être écoutée, hein, c'est pas...
Quand vous écrivez, vous vous sentez libre. Vous avez parlé tout à l'heure du rapport au langage qui était...
Mais vous savez, bousculé. Juste sur écouter, regarder, c'est... Pardon, mais écouter, être écouté, c'est un mot très autoritaire, hein. Tu vas m'écouter maintenant ? Tu m'écoutes ? Bon, je pense pas... Enfin, voilà, c'est écouter quelqu'un. Et encore une fois, être entendu par quelqu'un. C'est une relation. On parle de relation. Justement, ce qu'il y a dans la littérature, comme dans le cinéma, c'est pas autre chose que ça, d'une relation. Écrire quelque chose que quelqu'un va lire. Et il va vivre dans ce monde avec vous. On va vivre ensemble dans une maison, cette espèce de maison qui n'existe pas, qui est une maison abstraite. Mais c'est là-dedans qu'on va vivre. C'est quand même autre chose.
Ce qui veut dire que vous n'envisagez pas d'écrire sans être publié ou lu. Justement, vous ne pouvez pas écrire seulement pour vous. Ça doit forcément être à destination de quelqu'un.
S'il n'y a pas un écrivain qui envisage pas d'être lu et d'être publié. Enfin.
Même quand il fait ses journaux intimes, par exemple.
Ah ben, journal intime, c'est autre chose. Ça, c'est une autre affaire, bien sûr. Ça, c'est parler à son... Confier des choses à un papier, ça, c'est autre chose. Mettre ses idées au clair, ça, c'est tout autre chose, qui est très belle aussi. Mais ça n'a rien à voir. C'est une chose personnelle. Ça, c'est pour soi, pour le coup. C'est très beau aussi que ça soit possible, qu'on puisse coucher ses idées sur un papier, qu'on puisse confier ses sentiments à un papier. C'est très beau. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la littérature, c'est autre chose.
Qu'est-ce que ça change, justement, d'être lu par quelqu'un ? Si c'est pas de l'ordre de la relation autoritaire, de écoutez-moi, lisez-moi, comprenez-moi, C'est quoi cette relation alors qui se noue avec le
C'est une très belle relation. Très belle relation. C'est pas assez difficile à définir. C'est très profond, en réalité. Il y a quelque chose là qui est... Oui, c'est une sorte de... d'humanité là qui circule, on ne sait pas trop comment. Les gens entendent la même chose, on entend. C'est fait de cette espèce de sensibilité comme ça qui se répondent, qui s'entendent comme ça. Vous lisez, vous entendez, vous... Voilà, l'autre vient vous voir après pour signer, vous voyez un truc dans ses yeux. C'est des trucs aussi... C'est un peu indicible, en fait. Mais c'est très profond. C'est pas du tout des relations anodines. Ce sont des relations avec des gens que vous connaissez pas. Et ce sont les plus profondes. C'est incroyable, mais c'est comme ça.
Merci beaucoup, Christine Angot. Une famille, c'est le titre de votre documentaire. On peut le voir dès mercredi au cinéma. Je signale aussi que Le Voyage dans l'Est est disponible aux éditions Flammarion.
Christine Angot, on termine cette émission en musique et on a choisi deux chansons qui sont dans votre documentaire. La mère de Caetano Veloso ou Sun is Shining de Bob Marley. Laquelle souhaitez-vous écouter?
La mère de Charles Trenet par Caetano Veloso.
Merci pour la précision.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons.
La mer de Charles Trenet, mais par Caetano Veloso, pour vous, qui a été fait pour vous,
oui.
Christine Angot.
Oui, ça n'existait pas, il ne l'avait jamais enregistré, il l'a enregistré pour nous, pour notre film.
Pour Une famille qui donc sort en salle ce mercredi. Un grand merci à vous Christine Angot, un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparées par Issa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delasselle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Guillaume Ficheux. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page de l'émission et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain.
À demain.